Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, le parc du Luberon conduit un programme pour végétaliser des cours d'école sur son territoire. Le reportage de Mathieu Marc pour Force 7. Plat marseillais par excellence, la bouillabaisse est au centre des attentions d'une association culinaire, sociale et environnementale. À Manosque, Cocoon Work propose un espace partagé où l'échange est le maître mot. Rencontre et interview de Sybille Altman dans ce magazine. En pays dinois, curieux et adeptes seront ravis car la Grosbranche de Malmoisson ouvre dans quelques jours. Le reportage d'Odile Frison dans un instant. Le domaine des Blackwass est situé dans le Haut-Var. Véronique Armand a rencontré le directeur de ce centre de vacances. Le parc du Luberon végétalise des cours d'école.
Le parc naturel régional du Luberon a relayé auprès des communes membres l'appel à projet de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse visant à accompagner la désimperméabilisation des sols. Il s'agit de permettre à la terre d'absorber une partie des précipitations pour prévenir crues et inondations. Un des volets de l'opération est la végétalisation des cours d'école pour gérer les eaux de pluie dans 14 communes pour 19 écoles sur le territoire. Chargée de mission éducation, environnement et territoire au parc et coordinatrice du projet Coin de verdure pour la pluie dans les cours d'école du Luberon, Mariam Mehdi revient sur ce projet qui sera finalisé au courant de l'été 2022. Elle répond aux questions de Mathieu Marc.
Ce projet, effectivement, il fait suite à un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau qui s'appelle donc Coin de verdure pour la pluie. Et il est à destination des collectivités territoriales et notamment des établissements scolaires. Alors les cours d'école maternelle, primaire, mais également les collèges et les lycées. Ce projet, il vise à désimperméabiliser les sols, c'est-à-dire à les rendre poreux à la pluie, à veiller à ce que les eaux de pluie puissent s'infiltrer à la parcelle et également végétaliser ces lieux pédagogiques et veiller à ce qu'il y ait une bonne appropriation du projet par les équipes enseignantes, notamment.
Spécifiquement par rapport à la pluie, il faut noter que la pluie s'accumule dans les cours et cela provoque des risques de pollution, une saturation des réseaux et même des risques d'inondation.
Oui, on est quand même dans un climat méditerranéen, donc avec des pluies qui sont rares mais intenses quand elles arrivent. Et donc l'intérêt de ce projet est effectivement de recharger les nappes phréatiques, de rétablir le cycle de l'eau.
Par rapport à ces cours d'école, il faut dire aussi que ce sont des microclimats artificiels, ce qu'on appelle des îlots de chaleur.
Tout dépend effectivement de là où se trouve l'école, mais dans certaines villes, le parc du Luberon a pu mesurer des indices surfaciques de température et aperçu qu'effectivement, dans des endroits très minéralisés, comme on peut trouver dans les cours d'école, les températures au mois de juillet-août pouvaient atteindre quasiment 60 degrés au sol. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains.
Et végétaliser ces îlots de chaleur, cela participe aussi à lutter quelque part contre le réchauffement climatique, qui est une des missions du parc.
Voilà, donc l'intérêt aussi de ce projet, c'est de pouvoir se projeter dans quelques années et de se dire que la végétation qu'on plante maintenant pourra atteindre plusieurs mètres pour certains arbres et donc d'avoir des espaces vraiment ombragés qui permettent un meilleur confort, notamment dans les périodes de fin d'année scolaire. C'est un des enjeux du projet. On travaille avec des paysagistes qui, justement, voient quel type de sol peut remplacer le bitume et quels espaces, surtout, en fonction des usages de la cour, on peut recréer. Donc, des espaces parfois plus calmes, des espaces où on peut jouer, des espaces où on peut discuter, ou même courir, escalader, etc. Ça, c'est une définition que l'on a avec les paysagistes.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce projet implique aussi le bien-être des enfants.
Tout à fait. C'était vraiment important pour nous de pouvoir repartir des besoins des enfants et ne pas considérer ces espaces du point de vue de l'adulte qui, effectivement, a des exigences au niveau de la sécurité, de l'entretien, etc. Alors, bien sûr, ces nécessités, ces enjeux ont été pris en compte, mais on a voulu repartir du bien-être des enfants, de la reconnexion également avec la nature. Ça nous semblait important de permettre à certains enfants qui sortent peu maintenant, c'est très générationnel, mais de pouvoir avoir accès très facilement à un espace naturel où ils puissent prendre vraiment conscience des enjeux environnementaux qui vont arriver.
Quelle est la dimension de ce projet? Il y a plusieurs communes qui participent, plusieurs écoles?
Alors, plusieurs écoles participent. On a en tout sur le territoire 14 communes qui se sont déclarées volontaires pour travailler sur la renaturation de leurs cours d'école, et donc ce qui représente 19 cours qui devraient être réaménagés d'ici l'été 2022. Donc on a une bonne répartition assez homogène au niveau du territoire, donc à la fois sur le département du Vaucluse et sur les Alpes de Haute-Provence.
Est-ce que vous pouvez nous donner une référence internet pour en apprendre davantage sur ce projet?
Oui, alors vous pouvez aller voir le site du Parc du Luberon, donc www.parcduluberon.fr, et vous retrouverez dans la rubrique Éducation à l'environnement toutes les informations sur ce projet.
Bouillabaisse turfu pour une gastronomie poissonnière éclairée.
Marseille sans sa bouillabaisse ne serait pas Marseille et vice-versa. Mais en ces temps de réchauffement climatique et de pêche intensive, le plat exige une cuisine durable. À Marseille, l'association Bouillabaisse turfu est une interface sensible entre gourmets, pêcheurs et scientifiques. Son objectif est de promouvoir la pêche des petits métiers par une découverte guidée du marché aux poissons du Vieux-Port. Par ailleurs, l'association veut transmettre une cuisine locale et durable par la mise en valeur de ce plat traditionnel en organisant des ateliers de cuisine et des voyages culinaires à bord d'un vieux gréement. En lien avec le parc national des Calanques et la station marine d'Andoum, Bouillabaisse Turfu entend diffuser des données scientifiques sur la faune et la flore de la Méditerranée. Cuisinier, artiste, fondateur et directeur de ce projet, Christian Key détaille ses motivations et les raisons d'être de Bouillabaisse Turfu au micro de Colline Juté.
Pourquoi avez-vous décidé de créer l'association Bouillabaisse Turfu?
En fait, il y avait une sorte d'évidence de partir d'un projet commercial qui était un restaurant où la partie politique du projet autour de la pêche du poisson prenait beaucoup de place à travers le mouvement Slow Food. Mes engagements à participer à des conférences, à des débats, à promouvoir cette activité. Et puis se questionner aussi sur la question de la biodiversité marine, savoir ce qu'on mettait dans notre assiette, qui faisait partie de mon métier en fait. À un moment, je me suis dit oui, le format commercial d'un restaurant, donc d'une société qui doit générer des profits, etc. Et moi, ça n'a jamais trop été mon histoire et aussi mon engagement, du coup, la forme associative a beaucoup plus de sens.
Et quelle idée de la cuisine défend cette association?
Elle part de questions basiques, en fait, de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, comment on peut défendre un métier, amener un peu plus de poésie. C'est aussi des questions un peu d'urgence, parce qu'il y avait... j'allais sur les marchés un peu tous les jours, faire mes achats, et je voyais des poissons qui disparaissaient. Des questions qui se posaient là-dessus. Et je voyais aussi beaucoup de pêcheurs qui disparaissaient.
L'association vous a aussi permis de vous ancrer plus sur le territoire et d'être en lien avec les pêcheurs, d'être en lien avec les mangeurs.
Oui, c'est sûr que après le restaurant avait déjà ce rôle-là, en fait. En fait, parce qu'on fait à manger aux gens et que les gens aussi parfois questionnent ou savent qu'il y a une sorte d'intention derrière.
Est-ce que la forme associative, elle a permis de s'ancrer plus sur le territoire, peut-être par rapport à un restaurant ?
Après, c'est vrai que c'est de créer une association, de réfléchir avec d'autres gens. Qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les objectifs ? Quelles sont les questions d'efficacité aussi sur des actions qu'on peut mener ? Permet, oui, de... Alors, c'est vrai que je défends cette notion de territoire. Et du coup, notamment à travers la cuisine, nos actes d'achat, le questionnement aussi du vivant autour de chez nous, parle d'un territoire qu'on essaye de rendre vivant. Et voilà.
L'association, elle essaye de sensibiliser aussi à la raréfaction des ressources halieutiques. Alors, halieutique, c'est un terme que j'ai appris il y a peu, un terme qui est à la fois un adjectif pour signifier qui relève de la pêche et aussi un nom féminin défini par l'ensemble des disciplines ayant trait au problème de la pêche. Comment est-ce qu'elle sensibilise le public à cette raréfaction-là ?
On a été aidé par le Parc national des Calanques, qui m'a introduit dans un groupe de travail lors de la préparation du Congrès mondial de la nature, l'UICN. Et donc, je menais un petit groupe de travail qu'on appelait Cuisine marine durable, et donc qui posait la question de la biodiversité marine, et qui, à travers le changement climatique ou l'effondrement de la biodiversité, comment ça affecte nos côtes. Et donc la réaffection des ressources. Et donc, au lieu d'avoir un peu des mots d'ordre nationaux ou internationaux, il faut pas manger tel poisson, etc., se pencher plus particulièrement sur ce qui se passe localement avec des scientifiques locaux qui ont des questions ou des réponses aussi plus précises sur les causes. Donc, par exemple, la sardine qui diminue en taille en population. Quel éclairage on peut avoir avec des gens qui ont certaines connaissances à nous faire partager.
Et avec donc cet éclairage des scientifiques, est-ce que vous cuisinez autrement ou...
Ouais, après la cuisine, c'est un peu une alchimie un peu étrange où, quel que soit un peu le derrière politique du projet, il y a toujours quand même essayer de faire du bon, du beau. En fait, je pars aussi sur des préceptes un peu plus asiatiques, qui fait partie de ma culture, d'amener du beau, du bon, de la santé. Quand je nourris les gens, amener aussi quelque chose un peu plus de spirituel, où on mange l'esprit de l'animal. Du coup, à travers mon travail, aussi ces objets-là, qui sont pas forcément dites, mais c'est mes chemins, en tout cas, de cuisine. Et du coup, Marseille s'y prête bien, quoi, d'avoir ces pêcheurs, ce vivant qui est là tous les matins.
Qu'est-ce qui vous a attiré et continue de vous attirer dans la cuisine du coup de la faune marine, dans la gastronomie poissonnière ?
Plusieurs choses. Je pense après ça évolue toujours. On est toujours dans des envies. Mais bon, elle me lâche pas en fait. Donc ça c'est plutôt chouette parce que je suis plutôt du genre quand je me lasse d'un truc, passer à autre chose. Mais voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je continue sur ce chemin. C'est vrai que tout cet acte-là d'aller au marché, rencontrer des gens, voir aussi le vivant, des poissons incroyables sauter dans les bacs et prendre un chemin de voir ce qui vous attire en termes de beauté et du coup faire ses choix des achats à travers ça. Puis ensuite le cuisiner. Voilà, c'est travailler sur le goût. Après, c'est sûr que des fois, il y a des moments de vide, on se questionne. Est-ce qu'on a fait les bons choix ? On invente.
En quoi devenir ichtyophage, à savoir devenir une personne qui se nourrit principalement de poissons, a du sens pour vous ?
Oh, moi, je suis pas sur des catégories comme ça. Je pense que ce que je trouve intéressant, c'est le côté sauvage, quoi. On est du coup, on est plus sur une cuisine, même s'il y a toujours un peu de culture ou d'agriculture qui vient dans l'assiette, mais une grosse part du sauvage. Du coup, à travers aussi bien des actes de cueillette dans les collines, sur des aromates, tout ça. Donc il y a cette partie quand même de la terre quoi qui rencontre le poisson. Après j'habiterai sûrement ailleurs dans les montagnes. Je pense que j'essaierai de mettre en place une poésie de l'assiette à travers un territoire, un paysage, la faune, la flore et jouer là-dessus quoi.
Merci, Christian Key.
Merci.
Allez sur le site bouillabaisse-du6turfu.com pour plus de détails sur les activités et événements de l'association.
Manosque, grâce à Cocoon Work, le coworking a son cocon.
Installée depuis peu à Manosque, la société Cocoon Work propose plusieurs salles de superficie variées à des entreprises ou particuliers, et ce, de manière ponctuelle ou régulière. La fibre partout, bien sûr, une des salles est équipée d'un grand écran tactile, un photocopieur partagé et, très utile et apprécié pour le confort et la convivialité, une machine à café grand format. Et puis ce qui fait la singularité de l'établissement, outre sa fonctionnalité, c'est son mobilier et sa décoration vintage. La maîtresse des lieux, Sybille Altman, est dotée d'un goût certain et a récupéré chaises, bureaux, tables, fauteuils et objets divers dans sa famille et auprès d'antiquaires. Une ambiance chaleureuse s'ajoute à la convivialité naturelle et volontaire de Cocoon Work. Les entreprises accueillies, stagiaires et formateurs apprécient, confirme Sybille Altman. Sybille Altman, vous pouvez nous présenter Cocoon Work ?
Cocoon Work est un espace de coworking, de location de bureaux privés partagés ou des bureaux en open space et de la domiciliation d'entreprises ainsi que de la location de salles de réunion plus ou moins grandes à Manosque.
Vous êtes installé justement à Manosque depuis peu. Quelles sont les personnes qui viennent et qui font appel à vos services ?
Les personnes qui viennent louer donc les bureaux ici, c'est des entreprises qui viennent d'arriver, soit qui sont en cours de création, soit des entreprises qui ont déjà leur activité depuis un certain temps. Ensuite, il y a des entreprises qui viennent louer des bureaux pour des salles de réunion, pour faire des entretiens d'embauche ou encore faire des formations pour avoir des locaux un peu plus grands, donc plus adaptés à la formation à l'instant T quand ils ont besoin.
C'est-à-dire qu'il y a une souplesse en termes d'organisation. Vous pouvez avoir des personnes qui louent des locaux pendant une journée, une demi-journée, voire, et puis une période un peu plus longue.
Oui, tout à fait, exactement. Donc les locaux de Cocoon Work sont très adaptés au coup par coup ou à long terme. C'est ça qui est très complet dans cet espace de travail.
C'est aussi un espace qui propose des outils numériques de premier ordre.
Oui, tout à fait. Il y a une ambiance très vintage, mais avec le confort pour travailler dernier cri et très adapté à nos jours.
La fibre, par exemple ?
La fibre, avec le Wi-Fi, ainsi que des prises RJ45, donc tout est complet. Vous avez aussi un écran, un très grand écran tactile et interactif dans la salle de réunion, qui est très apprécié des coworkers.
Alors, vous avez utilisé un mot tout à l'heure important, qui est vintage. Et effectivement, le mobilier que vous proposez ici aux coworkers, il est vintage très particulier. Expliquez-nous.
L'ambiance que j'ai souhaité donner dans mon espace de travail et l'espace des coworkers est un esprit vintage qui est vraiment à mon image de vie. Et ça donne une âme et les gens apprécient énormément. Il y a vraiment un mélange de styles. J'ai usé beaucoup d'huile de coude pour chiner des meubles d'époque qui ont une âme, du coup. Et à côté de ça, il y a des chaises très confortables.
Il y a aussi de la décoration. Il y a, par exemple, des vieux téléphones filaires, évidemment. Il y a un Minitel, il y a des tourne-disques, des machines à écrire. Où vous avez trouvé tout ça, Sybille ?
Tout ce mobilier, cette décoration a été récupérée dans ma famille, dans ma belle famille. J'ai chiné quelques pièces aussi comme un bureau d'écolier, dans des ressourceries par exemple, des brocantes. Il y a beaucoup de mobilier et de décoration, de papier aussi sur les murs d'anciens journaux de mon grand-père, de réels décorations et de documents qui datent et de réels documents de mon grand-père qui ont été mis sur les murs avec beaucoup de goût.
Et c'est vrai qu'on apprécie.
C'est vrai qu'on apprécie.
On apprécie beaucoup. En même temps, Sybille, vous avez plusieurs espaces. Combien vous avez d'espaces ici et des espaces en plus avec des superficies différentes ?
il y a des espaces plus ou moins grands. Sur ce palier de 400 mètres carrés de plein pied, nous avons des bureaux privés d'une dizaine de mètres carrés, deux open space qui peuvent accueillir environ chacun une quinzaine de personnes, une grande salle de réunion où nous pouvons accueillir une cinquantaine de personnes, des salles de réunion ou formation ou bureaux d'entretien d'embauche ou autre d'une superficie un peu plus réduite qui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Nous avons aussi des pièces qui peuvent accueillir tout juste deux personnes plus confidentielles. Et il y a un grand espace commun avec des parties communes où tout le monde peut s'y retrouver pour boire un café, un thé ou juste faire un réseau, se créer du réseau en dialoguant autour d'un petit verre d'eau.
Si on veut avoir de plus amples renseignements, vous avez un site internet ?
Oui, cocoonwork.fr. Toutes les informations que vous recherchez y sont. Et s'il y a besoin, vous n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions par téléphone. 04 92 87 03 18 ou par mail contact@cocoonwork.fr. Le mieux, c'est de se déplacer, de venir vraiment voir de vous-même l'ambiance de travail et de vie que nous avons ici.
Sybine Allman, pourquoi ce nom en anglais ?
Le nom Cocoon Work m'est venu lors d'une nuit d'insomnie. C'est une abréviation qui englobe le mot coworking. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des majuscules et des minuscules. Donc le co-work et le cocoon, c'est l'ambiance que j'ai souhaité donner dans l'espace de travail. Chez Cocoon Work, nous avons aussi l'accessibilité par ascenseur ainsi que des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un photocopieur partagé de dernière génération qui est accessible à tous les coworkers, très personnalisé et très facile d'accès. Nous avons aussi l'accès à un parking proche à 30 secondes à pied qui comporte 150 places. Il n'y aura pas de problème pour se garer. L'emplacement est idéal. Pour l'accès au bureau, c'est très vintage du coup dans un certain sens, mais aussi très adapté et moderne grâce à des clés virtuelles QR code que je vous envoie. Toutes les portes sont codées, donc très sécurisées. Vous ne pouvez plus perdre les clés, il n'y a pas de problème.
L'Acrobranche de Malmoisson ouvre en février.
C'est le 5 février, très exactement, et à l'heure des vacances scolaires que l'Acrobranche de Malmoisson va ouvrir ses différents parcours. Personnel qualifié, matériel adapté et quelques nouveautés, tout est prêt pour accueillir le public. La société Arbre Aventure, qui gère la structure, change de propriétaire et désormais, Emmanuel Esmiol a pris la suite d'Éric Moulet. Il répond aux questions d'Odile Frison.
Je reprends l'Acrobranche à partir du 1er février 2022. En fait, je deviens propriétaire du parc acrobatique en hauteur à Malmoisson, plus communément appelé Acrobranche.
Cette Acrobranche va réouvrir ses portes. Est-ce qu'il a été fermé un moment ou...
Oui, il a été fermé fin novembre. Comme chaque année, en fait, il fermait après les vacances de la Toussaint et il rouvrait pour les vacances de Pâques. Et comme cette année est sous les conseils de Monsieur Moulet, l'ancien propriétaire, je réouvre pendant les vacances de février. Comme maintenant, c'est vrai qu'il y en a de belles journées maintenant en février, on tente d'ouvrir à partir du 5 février cette année.
Donc les horaires, j'imagine, en fonction de la saison, c'est pas trop tôt le matin et pas trop tard le soir.
Voilà, c'est ça. En fait, les horaires d'hiver, c'est 13h, 17h30 ou 18h. Mais voilà, c'est selon la température extérieure. Mais on n'ouvre pas le matin parce que le matin, il fait quand même trop froid. Donc, à part en haute saison, la haute saison, c'est 10h, 19h. Et la basse saison, donc de septembre à juin, sans compter la pause hivernale, on ouvre 13h, 18h à peu près.
Donc, on rappelle les pistes ouvertes à tous à partir de 10 ans, peut-être, les premières pistes ?
Non, 3 ans. 3 ans et pour les plus dégourdis, 2 ans, mais c'est à partir de 3 ans. On a deux parcours qui peuvent être faits par les petits de 3 ans et puis on a la, ce qu'on appelle la Tyrolulu. Là, c'est un petit parcours où c'est que toutes les plateformes et toutes les tyroliennes sont en hauteur d'homme, donc les parents et les accompagnants peuvent rester avec les enfants en hauteur. Donc dès le plus jeune âge, on peut déjà les initier.
Est-ce qu'il y a eu des nouveaux parcours? Donc
les dernières choses qui sont arrivées dans le parc, c'est les cartes avec pour les cartes adultes avec une assistance électrique pour un peu faciliter. Donc il y a une piste de carte qui fait 950 mètres de long qui passe dans la forêt, et des petites cartes pour les plus petits qui sont par contre pas sans assistance électrique. Et ça, c'est les dernières nouveautés qui sont arrivées, avec un trampoline aussi. Voilà, après les parcours là cette année, ça restera les mêmes, et on verra pour faire des innovations dès l'hiver prochain pendant la pause pour essayer de faire des petits changements. Mais pour l'instant, je garde comme c'est pour garder le même esprit. Donc en fait, on vient dans le parc et on paye une entrée et on reste le temps qu'on veut pendant les heures d'ouverture. On fait le nombre de parcours qu'on veut. Et les accompagnants, s'ils montent pas dans les arbres, c'est bien évidemment gratuit.
Est-ce qu'il y a une assistance pour s'il arrive qu'une personne soit bloquée, tétanisée à un endroit, il y a toujours moyen de venir la secourir?
Oui, bien sûr. Alors il y a du personnel qui se qualifie, qui est pour ça. Donc on passe ce qu'on appelle un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Un CQP OPAH, donc c'est opérateur des parcours acrobatiques en hauteur. Donc c'est quelques jours de formation qui nous permettent d'aller aider les gens à se sortir d'une mauvaise passe. C'est en plus, on a des petites astuces pour pouvoir intervenir du sol, pour pouvoir débloquer les gens quand ils sont un peu bloqués.
Est-ce qu'il y a un jeu concours?
Alors oui, ma compagne a lancé un jeu concours sur Instagram et sur Facebook. Donc en fait, on fait gagner deux entrées au parc. On pourra venir une fois dans le parc dans l'année. Ce jeu concours, il faut nous suivre sur notre page Facebook ou Instagram, identifier 3 personnes en commentaire sur le post, liker le post, et on peut doubler ses chances en partageant sur son profil et en notifiant l'acrobranche. Donc pour Instagram, c'est l'acro-malmoisson, et pour Facebook, c'est acrobranche-malmoisson. Et comme le concours a été bien suivi et que les gens ils ont bien partagé, ils ont bien joué le jeu. Du coup, comme il y a pas mal de participants, on va certainement gagner 2 places pour Instagram et 2 places pour Facebook, finalement.
D'accord. Donc, il n'y a qu'à se connecter et on a le détail du jeu sur Instagram.
C'est ça. Et on se connecte, on suit la page Facebook de l'Acrobranche Malmoisson, du coup, ou la page Insta, Acro-Malmoisson, et puis après, il y a tout écrit pour le concours.
Vous me rappelez donc la date d'ouverture de l'Acrobranche?
Ça ouvre le 5 février et ça fermera le 20 novembre. Donc, le 5 février, on ouvre toutes les vacances scolaires de notre département, donc les 15 jours, et après, on ouvrira les mercredis et les week-ends, jusqu'aux vacances d'été. Et là, les vacances d'été, bien sûr, on a ouvert tous les jours.
Les tarifs sont indiqués
sur le site, tout est indiqué. Voilà, donc cette année, petite innovation sur les tarifs. Les moins de 4 ans, avant, il y avait une catégorie moins de 7 ans. Et cette année, on a mis en place une catégorie de moins de 4 ans, où c'est qui paye 10 euros et les moins de 7 ans payent 15 euros, comme avant. Donc il y a une nouvelle catégorie pour les plus petits. Voilà. Après, pour travailler avec les locaux, pour ce qu'on a envie de travailler avec les locaux, on fait des cartes d'abonnement qui sont vraiment attractives, parce que la carte d'abonnement pour les moins de 10 ans, c'est 70 euros pour venir quand on veut toute l'année, et pour les plus de 10 ans, c'est 80 euros. C'est vraiment intéressant, donc accès au parc illimité.
Le public qui vient, est-ce que c'est public familial? Est-ce que c'est plutôt des ados, plutôt des très jeunes?
De ce que j'ai parlé avec l'ancien propriétaire, c'est public familial. L'été, il y a pas mal de touristes et c'est des gens de tout âge. Alors effectivement, ceux qui montent dans les arbres, c'est plutôt des enfants, des ados et des jeunes adultes. Mais on a quand même quelques exceptions qui viennent. Même les grands-parents, des fois, jouent le jeu et montent avec leurs petits-enfants dans les arbres, quoi. On a des parcours quand même qui sont adaptés. On sera assez en nombre pour intervenir s'il y a des gens en difficulté. Donc on joue à fond la sécurité. On a un système de mousquetons intelligents, ce qu'on appelle. C'est des mousquetons qui ont, une fois qu'on est rentré sur le parcours, on peut plus se détacher. Donc on est vraiment en totale sécurité. Sauf pour les plus petits, parce que les poignées sont un peu trop grosses. Donc les plus petits, les parcours, ils sont à environ 1 mètre du sol. Donc ils peuvent être suivis par les accompagnants. Mais sinon, tous les autres sont en sécurité. Une fois qu'on est rentré dans le parcours, on ne peut plus se détacher. Voilà. On peut défaire un mousqueton, mais il y en a toujours un qui reste en sécurité.
dans le Haut-Var. Les Blacquas est un domaine à découvrir.
À proximité des gorges du Verdon dans le Haut-Var et au sein du village de la Rogue-Esclapon, à 960 mètres d'altitude, se trouve le domaine des Blacquas. Ce centre de vacances est situé à 45 km de Draguignan et à une heure des plages méditerranéennes de Fréjus et Saint-Raphaël notamment. L'ensemble a été construit à partir d'une ancienne ferme sur un terrain de 10 hectares à 800 mètres du village et dans un cadre exceptionnel. Il accueille tout type de groupe en pension complète et en toute saison, classes de découverte, colonies de vacances, groupes d'adultes et location de gîtes pour les familles. Pour plus d'informations sur ce domaine accueillant, Véronique Herman a rencontré le directeur de Blacquas, Bruno Lemaire.
On accueille des enfants majoritairement des 6-12 ans. On peut accueillir des ados et on peut aussi accueillir des maternelles puisqu'on a l'agrément PMI. Du coup, en fonction de l'âge des enfants, on peut soit organiser des activités directement sur place qui nécessitent pas de transport à l'extérieur, comme pour les maternelles ou les enfants jusqu'à 12 ans. On propose essentiellement de la ferme pédagogique, du poney puisqu'on a un ranch ici, de l'escalade arbre. C'est de l'escalade, mais plutôt que ce soit sur roche ou sur mur à l'intérieur, on fait ça dans les arbres, donc toujours organisé par... et sécurisé par des moniteurs brevetés d'État. On peut faire des randos. L'avantage, c'est qu'on est au pied du Lachins, donc on peut faire des randos sportifs à la journée pour aller au sommet du Lachins. On peut aussi aller visiter les villages à proximité, comme le village de Bargem, qui se fait très bien avec les scolaires. Ils partent à la journée avec les paniers repas, et ils peuvent visiter ce village médiéval.
Ça se rapproche des classes vertes ?
C'est essentiellement pour des classes vertes. Et on peut faire aussi les mêmes plannings d'activités, pour les colonies de vacances. Pour les plus grands, on va privilégier les sorties à l'extérieur pour profiter des gorges. Tout ce qui est canyoning, rafting, kayak, canoë-kayak. On peut faire de la via souterrata aussi, de l'escalade sur roche. Puis après, suivant les souhaits des clients et des organisateurs, on peut aller passer une journée à Fréjus-Saint-Raphaël pour profiter de la plage. On peut aller à Aqualand. Il y a des activités qui nécessitent des transports qui peuvent être mises en place. Il y a une part de scolaire, donc ce sont les écoles, les mairies qui participent à la mise en place du projet. Après, on travaille aussi beaucoup avec des associations organisateurs de séjours de vacances, pendant les vacances.
C'est vous qui fournissez le personnel ?
Le personnel technique, oui. Essentiellement, moi, je m'occupe de tout ce qui est hébergement, restauration dans un premier temps, avec le recrutement du personnel de cuisine et le personnel technique pour tout ce qui est nettoyage des locaux, service durant les repas et la plonge.
À quels autres domaines pourrait s'étendre votre proposition, c'est-à-dire des séminaires ?
Alors, les séminaires, comme je le disais tout à l'heure, c'est limité pour l'instant, pour tout ce qui est réseau, qu'on doit encore développer. Mais après, on n'a pas de limite. Je peux accueillir des particuliers, je peux ouvrir les portes pour des anniversaires. À partir du moment où il y a un groupe de 40-60 personnes, une famille qui veut venir en pension complète, toujours sous réserve qu'ils acceptent l'hébergement en chambre collective, on n'a pas de limite. Ça peut être des clubs sportifs, des stages divers. On a des stages de théâtre qui viennent aussi pratiquer, des stages de méditation, de yoga. Tout ça, ça peut être mis en place.
Un jour de l'an ?
Un jour de l'an, oui, oui, oui. On ne l'a pas encore fait. J'ai fait le réveillon de Noël l'année dernière. J'ai travaillé pour accueillir des jeunes autistes qui souhaitaient venir pour un réveillon de Noël.
Pour les stages de développement personnel, vous avez combien de salles à disposition ?
Tout dépend du nombre de personnes présentes. J'ai 5 salles d'activité à mettre en place, y compris la grande salle dans laquelle on s'est installé aujourd'hui. Et puis après, tout dépend de l'effectif. Hein. Si c'est un petit groupe de 20, j'ouvre une salle, ça suffit. Et après, s'il y a plusieurs thèmes, plusieurs choses à mettre en place, on peut ouvrir davantage de classes.
Comment fonctionnez-vous pour les tarifs ?
Et on a un tarif de base qui est mis sur le site internet pour des scolaires ou pour les vacances, hein, sachant qu'à différentes périodes de l'année, suivant la fréquentation, les prix peuvent varier. Et puis après, pour les autres groupes qui veulent se positionner, tout dépend de leurs demandes. S'ils ont des demandes bien particulières, s'ils veulent des activités en plus, s'ils veulent des transports en plus, on est capable de le mettre en place, d'organiser. Bien évidemment, ça se fait en supplément de la pension complète, qui représente essentiellement l'hébergement et la restauration.
Si on veut vous contacter, c'est par quel biais ?
Il y a un site internet avec toutes les coordonnées, Domaine des Blacquas. Il y a aussi une page Facebook que je tiens à jour assez régulièrement, pas quotidiennement non plus, sur laquelle ils peuvent retrouver toutes les informations nécessaires. Donc, par téléphone, c'est ce qu'il y a de plus simple, ou par mail à contact@blacquas.fr.
C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Force 7. Mais avant, François, une cruelle disparition au sein de notre radio.
Oui, Olivier, notre collègue et ami Alain Genet est décédé brutalement la semaine dernière à Castellane
et tous les Mistraliens sont dans la peine. Alain avait rejoint notre équipe en septembre dernier, mais auparavant, il a travaillé dans les années 90 à Sisteron et Manosque, où il a contribué à lancer notre antenne locale. Fidèle à la radio et parti vers d'autres horizons dès qu'il le pouvait, il venait nous prêter main forte, notamment sur bien des aspects techniques qu'il maîtrisait parfaitement. Il a porté son enthousiasme et ses connaissances pour son retour à Fréquence Mistral. Malheureusement, cela n'a pas duré et aujourd'hui notre peine est immense. Merci Alain pour ta gentillesse et ton dynamisme, nous ne t'oublierons pas.